Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Et bonsoir tout le monde, ça fait du bien de revenir ici à Sherbrooke. Bienvenue de retour sur ma radio Academia avec moi, Bromer Rahman, exclusivement sur CFAQ 83. Oui, je suis officiellement de retour de mes longues vacances et non, ceci n'est pas une rediffusion. Apparemment, vous m'aimez tellement qu'on m'a accordé une deuxième case horaire par semaine. Je serai donc sur les ondes chaque lundi et jeudi à 18h. La qualité n'en souffrira aucunement. En fait, j'ai tellement de contenu de première qualité en réserve que je n'aurais pas eu assez de cases horaires hebdomadaires. Ça fait quand même 5 ans que je suis journaliste, donc je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Par contre, ceux qui ont lu ma bio sauront que je suis juriste de formation avec un intérêt particulier pour le droit multimédia, donc jeux vidéo, littérature, art et oui, cinéma. J'ai une histoire particulière avec le domaine vu que j'ai moi-même offert plusieurs conférences à ce sujet. J'ai rédigé des articles et j'ai fait partie du comité de développement du projet Expérience Cour Suprême dans le cadre de la création du jeu vidéo Écho de la Cour sous la direction du professeur Étienne Trépanier qui enseigne le cours de droit et cinéma à l'Université d'Ottawa. Alors remarquez ma plaisante surprise lorsque j'ai aperçu dans mes courriels que le laboratoire pour la recherche critique en droit, la LRCD, m'inviter à son premier ciné-critique ayant pour thème « Ligne directrice pour mener une analyse approfondie en droit et cinéma » qui aura lieu le lundi 9 février 2026 de 11h30 à 13h en présentiel au local A9-248 dans la bibliothèque de la faculté de droit. Pour parler du sujet et de cet événement, j'ai invité un de ceux qui s'y connaît certainement le mieux. Il détient un bachelier et un master en droit public et international de l'Université libre de Bruxelles de l'ULB. Son mémoire porte sur la liberté d'expression sur Twitch à la lumière de la Charte européenne des droits de l'homme. Il poursuit ses études par un master spécialisé en droit international, encore à l'ULB, où il rédige un mémoire sur la responsabilité internationale des actes commis par le groupe Wagner lors du massacre de Moura. Il s'intéresse notamment aux théories du droit international et de la justice internationale. Il poursuit sa carrière académique toujours en droit de l'autre côté de l'Atlantique, ici à l'Université de Sherbrooke. Il est avec moi en studio. Bonsoir, Sam Rojdi.
Bonsoir, Bromer. Bonsoir à tous les auditeurs. Je suis très honoré d'être invité. Je suis très heureux aussi de vous parler du LRCD et de l'événement qui est prévu, donc le ciné-critique. Et franchement, je trouve que c'est une super initiative de faire le lien entre droit et culture comme tu le fais, de parler de culture de manière générale à la radio.
Justement, c'est le sujet, le concept même dans l'émission. C'est pour ça que j'ai tellement excité d'avoir quelqu'un comme vous ici dans le studio. Parce que moi, en général, je parle pas simplement. Il y a des gens qui se trompent et qui pensent que mon émission, c'est purement sur les jeux vidéo. Alors que non, j'ai parlé de beaucoup de choses qui ont attrait aux jeux vidéo. Mais j'ai aussi parlé d'animé comme Hunter x Hunter avec un de mes camarades. J'ai aussi parlé d'autres sujets liés autour de la culture et du droit. Donc Sam, peut-être commencer par parler de justement ce que vous faites ici à Sherbrooke. Vous venez de Belgique, vous arrivez de loin. Donc quel est votre objectif ici à Sherbrooke? Qu'est-ce que vous faites comme études?
Donc moi, comme tu l'as très bien dit, j'ai fait mes études à l'Université libre de Bruxelles en droit international. Donc c'était des maîtrises de type cours plutôt. Du coup, j'ai beaucoup étudié le droit international. C'est quelque chose qui m'a très vite très intéressé. Et puis, à la fin de mes études, j'ai un professeur qui m'a proposé de participer à un cercle de lecture qui a été organisé par le LRCD. En fait, le cercle de lecture portait sur un des livres qui avait été écrit par mes professeurs et dont j'avais déjà parlé avec eux. On s'en était déjà parlé parce que je m'entendais relativement bien avec mes professeurs. Et du coup, au cercle de lecture, en parlait d'un livre que j'avais très bien connu, puisqu'en réalité, il avait été écrit par des personnes que je connaissais presque personnellement. Et ça m'a permis de discuter avec plusieurs professeurs, plusieurs personnes qui ont une expertise en droit international qui est très importante. Et puis, à l'issue du cercle de lecture, la professeure Méran et Noémie Boivin, qui dirigeaient le LRCD à l'époque, m'avaient demandé si j'étais intéressé par le fait de faire de la recherche à Sherbrooke, au sein du LRCD. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, je suis arrivé l'année passée et je commence mon doctorat à la fin du semestre ou au milieu du semestre. Je ne sais pas encore, en fonction de ce que l'immigration va répondre.
En effet, ce n'est pas toujours facile, hein, tous les enjeux que les étudiants peuvent avoir avec l'immigration, mais on n'est pas là pour parler de trucs plates comme ça. On est ici pour parler de droit et cinéma. Donc, Sam, qu'est-ce que c'est que le droit et cinéma et comment a-t-il suscité votre intérêt ?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'Université de Bruxelles, les professeurs en fait, mettent beaucoup l'accent sur le droit et cinéma. Le cinéma, en fait, le cinéma permet à la fois d'illustrer des problématiques et des tensions qui sont bien réelles dans le droit international. Donc il sert à la fois de support illustratif, parce qu'en fait, on a tous des exemples culturels en tête. Parfois, en fait, nos conceptions du droit ou même de la vie en société, elles se fondent sur le cinéma ou la culture de manière générale, parce qu'en fait, il y a des réalités qu'on n'a pas encore eu l'occasion de connaître, qu'on ne connaît pas, et du coup, la seule expérience qu'on peut en avoir, c'est par la culture. Du coup, il l'utilisait à la fois à titre illustratif, mais à la fois pour montrer comment nos conceptions étaient influencées par ces médiums culturels, en fait. Et moi, ça m'a très vite très intéressé, parce que la réalité, c'est que je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve que c'est une excellente idée parce qu'on a tous un rapport à la culture. Du coup, ça permet de vulgariser quelque chose qui, prime abord, peut paraître compliqué. Le droit international, personne ne sait ce que c'est. On a l'impression que ça n'existe pas. Et du coup, utiliser un support culturel, je trouve ça hyper intéressant. Quand je suis arrivé ici, en fait, c'est quelque chose qui existait déjà, mais qui n'avait pas encore d'emprise quotidienne ou régulière. Cette année, après m'être un peu mieux inséré au sein du LRCD, on en a discuté. En fait, il y a plusieurs professeurs qui l'utilisaient déjà pour leurs cours, mais comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'événement spécifique pour ça qui était créé. Et puis, suite à ma proposition, en fait, il y a plein de professeurs qui sont montrés hyper, hyper intéressés par le faire. Michael Lessard pour le droit animalier, Alexandra Popovici, Hélène Méran. On était vraiment beaucoup et on s'est dit que ce serait cool de faire une première initiation avec Suzanne Bouclin, qui est la vice-doyenne à la recherche de l'Université d'Ottawa et qui en fait a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et c'est de cette manière-là qu'on souhaite faire les choses. Moi, ma première initiation, c'était, comme je t'ai dit, c'est l'ULB qui a, même au sein de sa page, ce qu'ils appellent une rubrique culture pop et droit international. Ils ont écrit aussi un livre avec plusieurs chercheurs qui s'appelle « Droit international au cinéma ». Et c'est comme ça que je me suis mis à m'y intéresser. Mais je sais que toi aussi t'y intéressais, peut-être que tu as certaines choses à nous dire. Comment est-ce que toi ça t'est venu ?
Mais en fait, je voudrais d'abord peut-être apporter tu pourrais peut-être apporter une précision sur c'est quoi le droit et cinéma, parce que moi-même, dans un domaine adjacent qui est le droit des jeux vidéo, j'ai eu affaire à des personnes qui sont confuses. Toi et moi, on est juristes, on se parle comme ça. Moi, je comprends parfaitement ce qui est expliqué. Mais pour une personne lambda, souvent, moi, quand je fais des présentations sur le droit des jeux vidéo, il y en a qui captent pas tout de suite. Ils se disent « Ok, mais est-ce que tu parles comme de Phoenix Wright, comme Yakuten Saiban, tu parles de ce jeu-là ?» Moi, je dis non, le droit des jeux vidéo, c'est un domaine du droit, c'est pas le droit représenté dans les jeux vidéo. Est-ce que vous, au LRCD, quand on parlait droit et cinéma, vous avez fait affaire avec des gens qui disent « Ah, droit et cinéma, est-ce que tu parles de genre My Cousin Vinny ?»
En fait, il y a plusieurs façons de faire du droit et cinéma. Je pense pas qu'il y en ait une qui est meilleure que les autres. Un des exemples que tu as pris, c'est Ace Attorney, donc Phoenix Wright. C'est au demeurant un très bon jeu que moi j'aime beaucoup. Mais pour garder cet exemple-là, et on peut le relier à d'autres séries sur la justice, avant de faire du droit à l'Université libre de Bruxelles, moi par exemple, je ne savais pas, disons que je l'ai appris assez tard, que on ne pouvait pas faire. Ah, objection au tribunal. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai cru à cause de ces vidéos et de ces jeux-là. Donc, une des façons de faire du droit et du cinéma, ben, c'est de regarder de quelle façon est-ce que le droit est représenté dans les médiums culturels. L'autre façon, ça peut être d'un angle beaucoup plus cinématographique, de regarder en fait quels plans sont utilisés. Par exemple, on va voir quelque chose de plus lumineux et qui implique évidemment une conception du bien, et des plans plus sombres qui impliquent finalement une conception du mal. Une autre façon de le faire, c'est ce qu'on appelle les cultural legal studies. Donc, c'est des études qui s'intéressent plus au médium culturel comme quelque chose qui influence le droit et qui joue sur nos conceptions de ce que c'est. Un des exemples qui est assez souvent pris, c'est, comme j'ai dit, l'exemple avec les objections, que tout le monde connaît, qui touche tout le monde. Il y a un autre exemple sur les règles qui sont liées aux ambassades. Très souvent, on nous représente les ambassades dans les séries et les films comme un lieu de droit, comme si c'était une partie du territoire d'un autre État.
Un sanctuaire, en fait.
Oui, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Il y a vraiment beaucoup d'exemples qui sont faits. La représentation du droit à la légitime défense, de l'agression, du terrorisme. Il y a vraiment de la justice internationale. Il y a énormément d'exemples. Et en fait, ça ne s'arrête même pas qu'au droit, finalement. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le cinéma. C'est vraiment le cinéma en tant que référent culturel. Parce que pour moi, le droit, ce n'est pas seulement dans les textes. Ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui bouge. Et les référents culturels, en fait, elles tendent à modifier nos conceptions du droit. Et en fait, à concrètement agir sur ce que c'est la légalité, ce que c'est l'illégalité. C'est quoi le juste, c'est quoi le bien, c'est quoi le bon, c'est quoi le mal. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse le plus des trois approches que j'ai expliquées. Donc la première, la représentation, l'aspect purement formaliste. Est-ce que la façon dont le procès il est mené dans cette série, elle est réelle, elle est véridique? C'est un peu ce que fait l'émission, la chaîne YouTube QG, je pense. Une autre façon de le faire, c'est de s'intéresser d'une façon plus cinématographique, mais moi, je ne suis pas réalisateur, en fait, donc je n'ai pas beaucoup d'expertise là-dessus. Par contre, les cultural studies, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, l'angle des cultural studies, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Mais c'est aussi le sujet de l'intervention de Suzanne Bouclin, parce que ce sera la première intervention. Et du coup, elle portera sur comment faire une analyse juridique du cinéma ou des films.
Mais justement, pour moi, le droit et cinéma, mais déjà, ça dépend à quel point on est un puriste. Par exemple, on peut considérer que tout ça, c'est dans un même domaine ou c'est un domaine séparé, la représentation du droit dans le cinéma et le droit et cinéma ou le droit du cinéma. C'est deux sujets à part. Un, c'est un sujet de droit, l'autre, c'est plutôt un sujet d'art. C'est une question artistique, alors que le droit, c'est plutôt dogmatique dans le regard qu'on a par rapport à l'application du droit en tant que tel. Mais par contre, pour moi, l'intérêt pour moi, pour le droit et cinéma, c'est quelque chose qui m'est venu simplement parce que j'aime le cinéma, j'aime ben pas juste les films, mais les animés, les séries. Et évidemment, vu ma formation de juriste et mon intérêt pour le droit, c'est quelque chose auquel je me suis intéressé assez rapidement à jumeler les deux ensemble et à voir où se rejoignent les deux domaines. Et parfois, ça donne des résultats assez drôles quand j'en discute avec certains de mes amis. Par exemple, moi, j'ai eu un invité qui est un très proche ami à moi, Bai Chao, lui, il est chinois. Et je lui ai montré une série, un legal drama chinois. J'ai partagé ça et j'ai dit « Ah, est-ce que tu regardes ça ?» Il a dit « Bromor, il y a seulement les femmes de genre 40 ans, les mères qui regardent ça à la télé. » Et moi, j'ai dit « Ah bon ?» Et pourtant, tu sais, les dialogues puis le drama dans la cour, ça a l'air très intéressant. Il a dit « Tu veux que je te montre une vidéo d'un vrai procès en Chine ?» Il m'a envoyé ça, c'est le truc le plus plate que j'ai vu. C'était quelqu'un en train de lire un texte préécrit comme ça et de lire votre honneur, je voudrais vous dire que... Et j'allais m'endormir en 5 secondes. Donc, ça, on voit que souvent, que ce soit dans des jeux vidéo ou dans le cinéma, ça se rejoint un peu. Ça paraît évident, mais on embellit des choses, on coupe certaines choses pour que ce soit plus intéressant. Alors que dans la réalité, ça ne l'est pas toujours. Et c'est un peu comme ça, c'est un peu cette dichotomie-là, cette distance-là entre la réalité et le virtuel qui est venu me chercher. Mais Sam, après la pause, tout de suite, on parlera de la suite de ce que vous planifiez de faire pour cette ciné critique et également de l'organisation qui organise cet événement, le LRCD, tout de suite après la pause. Donc, de retour de la pause, je suis encore avec Sam Rojdi du LRCD, expert en droit et cinéma, ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, Sam, t'en parlais juste avant la pause, parle-nous un peu du LRCD, qui est l'organisme qui organise cette ciné-critique, cette activité de ciné-critique. Qu'est-ce que le LRCD, qu'est-ce qu'il fait?
Le LRCD, c'est un des organismes de recherche de l'université. C'est donc le laboratoire, comme tu l'as dit, pour la recherche critique en droit. L'important dans le LRCD, c'est principalement la dernière lettre, donc c'est le C, le critique. Les approches critiques, en fait, c'est une théorie du droit, spécifiquement en droit international. C'est une théorie qui dit qu'en gros, pour la résumer, parce que ce serait assez, enfin, on pourrait faire des cours dessus, on pourrait échanger pendant des heures dessus. C'est des théories qui disent que la distinction entre le droit et la politique, elle est un peu superficielle. Et qu'en réalité, droit et politique, c'est deux choses qui ont beaucoup en commun. Que le droit est influencé par la politique et influence la politique. Et qu'il reproduit des schémas de domination. Et les auteurs critiques, en fait, ils s'intéressent à la façon dont le droit les reproduit ces schémas de domination. Et de quelle façon est-ce qu'il est possible de s'en émanciper. C'est vraiment des théories qui sont très marquées à gauche, en général, pour être tout à fait honnête avec toi. Il faut faire... Puisqu'on parle de droit et politique, ben, il faut nommer les choses. C'est vraiment des théories qui cherchent à s'intéresser au droit et à sa force émancipatrice. Et du coup, l'intérêt avec le cinéma, c'est que, comme je l'ai dit au début, le cinéma, c'est un référent culturel très important, en fait, même un marqueur culturel très important, qui va avoir tendance à influencer les conceptions qu'on se fait de la réalité. C'est un peu aussi ce que le droit fait. Il y a beaucoup de fictions en droit, ce qu'on appelle des fictions. Donc, c'est des choses en droit qui ne correspondent pas à la réalité sociale et qui sont relativement acceptées. Par exemple, la propriété privée, c'est un exemple très connu. C'est une fiction juridique, puisqu'en fait, vous n'avez pas vraiment la propriété de ce que... Enfin, on ne peut pas matériellement avoir la propriété de quelque chose. C'est très difficile, en tout cas. Alexandra Popovici, vous en parlerez bien mieux que moi. Et l'intérêt, là, moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les questions qui sont liées au terrorisme, et je voulais te l'illustrer avec deux exemples. Après le 11, enfin, avant le 11 septembre, il y avait une série qui s'appelait 24 heures chrono, qui a continué bien avant le 11 septembre. Et suite au 11 septembre, il y a eu Guantanamo, que tout le monde connaît, des incarcérations, de la torture. Et ce qui se passe, c'est que le gouvernement américain était vraiment assez à l'aise sur ce qu'il faisait. Il ne le cachait pas tellement. Il était à l'aise avec cette idée-là. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde ce que disait le gouvernement américain à ce moment-là, il se fondait explicitement sur 24 heures chrono, qui est une série. On pourrait se dire il pourrait se fonder sur des textes légaux. Il le faisait. Mais ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il se référait à 24 heures chrono. 24 heures chrono, à cette période-là, était vraiment très important. Parce que 24 heures chrono, c'est l'histoire de Jack Bauer. Et à chaque fois, en fait, il doit faire face à des menaces de la sécurité. Mais vraiment, on parle de menaces apocalyptiques. Et si vous voulez, c'est un peu l'idée que la fin justifie les moyens. Et c'est quelque chose qui a été vraiment repris par le gouvernement américain. Notamment des éléments... en fait, dans 24 heures chrono, la torture et la violence sont assez répandues. Et c'est aussi... en partie pour ce que tu évoquais, en fait, il faut éviter qu'une série soit plate, donc on va mettre des éléments narratifs. Là, il y avait de la violence, mais ce qui est marrant, c'est que c'est une position avec laquelle ils étaient assez à l'aise les réalisateurs. À un moment, Jack Bauer fait même face au Sénat, qui le juge pour ce qu'il a fait. Et en fait, tu as l'impression que tous les Américains étaient d'accord avec lui. En fait, il l'émancipait. Et ce qu'il a fait, il l'a fait pour la sécurité nationale. Il s'est sali les mains pour nous. Et dans le contexte du 11 septembre, c'est vraiment très important parce que ça justifiait en quelque sorte l'exercice de la torture parce que il fallait lutter contre quelque chose de plus important. En fait, si on les torture pas, peut-être qu'ils ont des informations et que notre pays va être menacé de façon très importante. On parle de dizaines de milliers de morts. Et en fait, de cette façon-là, on peut voir le lien entre très concrètement le terrorisme et la torture et les films, donc le droit et le cinéma.
C'est intéressant parce que oui, l'approche critique en tant que telle est ancrée à gauche, mais par contre, le constat qu'on peut faire que le droit est en fait une branche ou est subordonnée à la politique, c'est pas une idée exclusivement de gauche. Je dirais même que c'est quelque chose qui est plutôt qui est parti de la droite. On voit par exemple, j'utilise Carl Schmitt comme un ancrage. Dogmatique pour mes recherches à moi. Et Schmitt, c'est que personne ne va accuser Schmitt d'être de gauche. On pourrait en débattre, c'est un autre sujet, mais Schmitt, pourtant, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de gauche qui s'accaparent les idées de Schmitt pour critiquer le libéralisme. Alors qu'ils ne savent pas du tout que ça vient de Schmitt, mais ils le répètent ad verbatim.
Oh, en général, ils le savent. Hein. Il y a des théoriciens critiques qui s'inspirent, qui citent clairement Schmitt. Bon, il faut être à l'aise pour le faire parce que c'était quand même un gros nazi. Mais il y en a qui le font. Mais en fait, encore une fois, ça dépend de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Comme j'ai dit, le fait de rapprocher le droit à la politique, c'est pas quelque chose qui est excessivement à gauche. Mais ce qui est excessivement à gauche, par contre, c'est l'idée de mettre à jour les rapports de domination qui sont invisibilisés par le droit, qui sont reproduits par le droit, qui sont parfois rendus plus importants, aggravés par le droit. Et cette idée, non pas seulement de les mettre à nu, mais aussi de les renverser. Il y a une visée émancipatrice dans les théories critiques qu'on ne retrouvait pas chez Carl Schmitt et qu'on ne retrouve pas chez plusieurs penseurs de la droite pour qui l'émancipation... Le renversement des rapports de domination n'est pas l'important.
Mais justement, mais par rapport à ça, c'est un peu connu, là, c'est peut-être cliché, mais que bon, les gens qui sont dans le cinéma sont un peu de gauche, là, sont progressistes. Et souvent, c'est des... Je n'ai pas des messages, mais des leitmotifs et des thèmes qu'on retrouve dans les cinémas qui sont faits. Il y a beaucoup de cinémas qui... On peut penser à des adaptations comme Hunger Games, autant que des films qui ont été faits indépendamment d'une source comme The Matrix, mais qui ont cette ambition émancipatrice, qui raconte une histoire d'une révolution ou quelqu'un qui s'émancipe de ses chaînes. Évidemment, Hunger Games et The Matrix, c'est pas la même chose, mais on voit des thèmes qui reviennent. Et vous, Sam Rojdi, au LRCD, comment est-ce que vous voyez justement l'industrie du cinéma et ce qui est représenté dans le cinéma par rapport à ça? Parce que bon, moi je connais des gens de gauche qui disent non, en fait les qui veulent me convaincre que ceux qui font les cinémas ils sont de droite en fait. On peut en débattre, mais vous le voyez comment?
Bah, je pense pas que ce soit notre question parce que par rapport à ce que tu as dit. Le milieu artistique et culturel, c'est un milieu qui est probablement plus à gauche que d'autres milieux. Le cinéma américain, c'est un peu différent parce qu'en général, c'est le cinéma hollywoodien. Le cinéma hollywoodien, il y a vraiment des liens très importants avec la politique américaine qu'on peut difficilement décrire à gauche. Mais encore une fois, là, je pense que c'est pas la question se pose moins de ce point de vue-là que de la représentation que nous fait le film de la réalité et du droit. Il y a vraiment énormément d'exemples. Par exemple, on peut difficilement accuser American Sniper d'être un film de gauche ou d'être un film qui promeut l'émancipation des êtres humains. Mais je pense que vraiment, l'intérêt, c'est de prendre un film qui illustre un genre ou une mode et puis de regarder de quelle façon est-ce qu'il il fait plusieurs représentations. Là, Suzanne Buclin, elle a choisi un film qui s'appelle Okja, qui traite en fait... qui est produit par un auteur coréen.
Justement, peut-être on peut parler de la ciné-critique qui s'apporte justement sur ce film-là, Okja. Parlez-nous de cette activité de ciné-critique que vous organisez au LRCD et en quoi ça consiste exactement cette activité-là? Parce qu'une ciné-critique, ce n'est pas quelque chose qu'on va, on va dire, de base ou fondamentalement relié avec le droit. Alors, expliquez-nous en fait en quoi ça consistera.
D'abord, pour parler de la première activité, donc comme j'ai dit, ce sera Suzanne Bouclin qui la présentera. Ce sera sur le film Okja. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Bong Joon-ho. Désolé pour mon coréen, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pratiqué. En fait, c'est le récit d'une amitié entre une fille et un cochon géant. Et la façon dont ce cochon géant, en fait, il va être pris par des industriels aux États-Unis. Et du coup, ça pose la question de l'antispécisme et du capitalisme. Et donc, l'idée, encore une fois, ce sera que, puisque ce sera une première, là, l'idée, ce sera vraiment de voir comment on fait. Et puis, à terme, peut-être une fois par mois, une fois tous les... Il faut qu'on décide de l'horaire, entre guillemets, de la fréquence. Il s'agirait d'avoir des professeurs, parfois des professeurs et des élèves. Moi, je préférais que ce soit à chaque fois... qu'il y ait au moins un élève, un professeur pour que ce soit accessible, qu'on se rende compte qu'en fait c'est quelque chose que les élèves aussi sont capables de faire, qui nous parlerait d'un film et d'une thématique en particulier. Comment est représenté le spécisme ou le droit des animaux dans les films? C'est une question qui est en fait qui est assez intéressante parce que le fait de le visibiliser, on s'en rend compte, on le conscientise. En fait, les films nous envoient plein de messages dont on ne se rend pas compte tant qu'on ne les a pas conscientisés. Et l'avantage du ciné critique, c'est qu'il permet de conscientiser ces messages. Et à partir du moment où ils sont conscientisés, on peut avoir un regard critique. On peut se rendre compte de ce qu'on voit. On peut, au lieu d'être simplement un spectateur passif qui reçoit les messages, en fait, on devient un peu plus actif et on comprend ce qu'on regarde. Et on comprend ce qu'on regarde et on est capable d'avoir un avis sur ce qu'on regarde.
Vous savez, quand quelqu'un me parle de cinéma ou de jeux vidéo, n'importe quel multimédia, et me dit « Ah oui, tu vas voir, c'est extrêmement novateur comme thème », c'est l'anticapitalisme. Je roule un peu des yeux parce que est-ce qu'on peut vraiment dire que l'anticapitalisme n'est pas très abordé dans le multimédia?
Ah, mais à aucun moment j'ai dit que c'était très novateur.
Non, je ne dis pas ça, c'est plutôt un constat que je fais.
Est-ce que l'anticapitalisme est abordé dans les médias? Je ne pense pas tant que ça en réalité. Je pense qu'il y a des critiques du capitalisme dans les médias, ça existe dans les films et dans la culture populaire de manière générale. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une critique du capitalisme que cette critique est anticapitaliste. En réalité, on peut critiquer plein de choses dans le capitalisme. On peut avoir un film sur la pauvreté, ça n'en fait pas un film anticapitaliste. La particularité de l'anticapitalisme, c'est qu'elle critique le système capitaliste et pas seulement un des problèmes que le capitalisme provoque. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut être anticapitaliste pour regarder le film. Je pense que c'est un film très agréable de manière générale. Vous n'avez pas besoin d'être anticapitaliste pour participer au ciné-critique. Je pense vraiment... Enfin, de mon point de vue, c'est pas moi qui le présente. Je sais pas. En toute honnêteté, je n'ai aucune idée de ce qu'elle va dire. Et vous avez même pas besoin de regarder le film pour venir. Par ailleurs, c'est disponible sur Teams aussi. Donc, si vous voulez, il suffit de vous inscrire. Vous n'êtes pas obligé de venir sur place. Comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin de regarder le film. Et vous pouvez aussi regarder le film et ne pas participer au ciné-critique. C'est possible aussi. Moi, aujourd'hui. Je suis content de vous en parler, de vous parler de cette activité qui est le ciné-critique que je co-organise. Mais je suis aussi très heureux de pouvoir vous parler de ce thème-là, parce que ça permet aux gens qui ne l'ont pas encore fait de conscientiser ce qu'ils regardent et donc d'avoir un regard critique sur ce qu'ils regardent.
Mais ce que je disais un peu plus tôt, peut-être c'est pas en fait, vous connaissez sûrement le terme la mort de l'auteur, l'idée qu'une fois que une œuvre a été accomplie, publiée, alors là c'est au public de faire des analyses et que l'intention de l'auteur est, on va dire, n'est pas probant par rapport à ça. Et dans cette perspective là moi, quand je vais sur YouTube ou je regarde des vidéos essais, les fameux vidéos essais qui critiquent ou qui analysent toutes sortes de multimédia, que ce soit des jeux ou des cinémas ou des animés ou quoi que ce soit, on connaît un peu la blague et le cliché de comment X critique le capitalisme, comment X est en fait serait réellement anticapitaliste, comme récemment Mother's Basement, qui est un YouTuber très connu qui couvre les animés. il parlait de One Piece et comment One Piece était anticapitaliste, une critique du capitalisme. D'autres parlent d'autres séries comme Squid Game ou même, on pourrait même dire, je crois avec raison, que le réalisateur même faisait une critique du capitalisme dans Squid Game. Alors c'est plutôt de ce côté-là que parfois quand je vois des jeux, soit où c'est comme, ah, il faut un peu, bon, je vais pas être méchant, mais comme un peu hippie avec les elfes, là, tout ça, il faut défendre la nature, ou un peu, les gros méchants qui sont à avoir et veulent garder leur argent, tout ça, c'est un peu des thèmes qu'on revoit souvent. Là, je peux nommer une dizaine de RPG que j'ai joué où le méchant, c'est juste quelqu'un qui est extrêmement avare et qui veut juste garder son argent et s'asseoir sur son argent. En fait, ce serait une critique du capitalisme, alors que ben, si on joue au jeu et qu'on fait une analyse un peu plus approfondie, on se dirait, bon, mais pas vraiment. De ce côté-là, je voulais poser la question, Sam Rushdie, est-ce que vous trouvez que le domaine dans lequel vous œuvrez, le droit et cinéma, c'est quelque chose qui aide dans l'analyse médiatique, parce que ce qu'on appelle la littératie médiatique, c'est-à-dire en anglais on dit media literacy, c'est-à-dire la capacité de quelqu'un d'analyser un média de manière cohérente et de trouver des arguments et de pas simplement sortir 20 vidéos sur 20 médias différents et de dire que c'est tous des critiques du capitalisme. Est-ce que c'est quelque chose que le droit et cinéma a fait et comment est-ce que vous, personnellement, vous accomplissez ça?
En fait, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Je ne sais pas si je dois répondre juste à la dernière question.
Faites ce que vous voulez.
En fait, pour commencer par le début, avec la mort de l'auteur, ouais, c'est un concept assez connu qui a été vraiment très médiatisé à partir de Roland Barthès. Moi, pour être honnête, j'y adhère pas. Je pense que les auteurs, quand ils font une œuvre, qu'ils le souhaitent ou pas, d'ailleurs, ils font passer un message. Parfois, le message il est explicite, parfois il ne l'est pas. Mais c'est difficile de dire que la personne qui a produit American Sniper, par exemple, n'avait pas certains messages à faire passer. De la même manière que la personne qui a écrit Miyazaki, qui est très connue dans le milieu de l'animation japonaise, tous ses films quasiment portent sur un thème entre la nature et l'être humain. C'est difficile de lui faire dire ce qu'il ne... Enfin, c'est difficile de dire que l'auteur est mort. Donc quand vous regardez un film de Miyazaki, vous savez, il y a une patte Miyazaki.
Non, absolument. Si vous permettez, simplement... Ce que je voulais, ce dont je pensais en fait réellement, c'est moi notamment, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est les œuvres érotiques un peu matures de ce genre. Et là-dedans, il y a toujours des gens, des critiques qui font le coup de « Ah ouais, non, en fait, lorsque l'auteur ici, il montrait des tétons et du cul et du sexe, ce qu'il voulait dire, c'était une critique de l'objectification de la femme et du patriarcat et du capitalisme et de etc., etc., etc. Et » Et là, finalement, tu sais, il y a quelqu'un qui va faire une entrevue avec l'auteur, il dit « Ah ouais, mais qu'est-ce que vous vouliez, c'était quoi votre intention dans cette œuvre-là ? » Et lui dit, ben, j'aime les femmes, là, j'aime le cul. c'est ça que je veux dire, c'est souvent, j'ai l'impression qu'on attribue des choses à l'auteur, que l'auteur lui-même, auquel il n'a pas pensé. Parfois, j'ai un ami qui lui, il est auteur, c'est un mangaka. Et lui, il m'a dit, ah ouais, non, parfois, quand j'ai des fans et mes lecteurs qui viennent me dire, ah ouais, non, j'ai totalement compris ce que tu voulais dire dans ça, là, tu voulais dire, nanana. Lui, il m'a répondu, il a dit, lui, il fait juste oui de la tête, puis il pense dans sa tête, ah ouais, il aurait aimé penser à ça, mais non, en fait, c'est pas du tout à ce qu'il pensait, il pensait à rien lorsqu'il avait écrit ça.
Mais en fait, du coup, ce que tu critiques, c'est pas tellement la mort de l'auteur que la qualité de l'analyse. Et ça, c'est quelque chose qui se vaut. Moi, je pense que la particularité du droit, c'est que c'est une pratique argumentative. Du coup, en fait, ce que tu fais, c'est vraiment une activité de juriste, c'est de juger de la qualité argumentative de la partie adverse, entre guillemets. Et par ailleurs, je pense que parfois le message, il n'est pas, comme je l'ai dit, il n'est pas conscient. Il y a, pour rester dans le thème du cul, il y a des gens qui reprochent aux livres érotiques de reproduire ce qu'on appelle le male gaze. Le male gaze, il faut pardonner mon accent anglais, ça fait longtemps que... Male gaze, c'est le fait de toujours voir les relations à travers les yeux de l'homme. En réponse, il y a ce qu'on appelle... au contraire des films qui se sont faits sous les angles du regard de la femme. La même chose pour le porno. Le porno, c'est quelque chose qui a été accusé d'être très masculiniste. En réponse, il y a eu le porno féministe.
Ce que vous dites, c'est totalement vrai. L'enjeu du male gaze, il est réel pour la pornographie et les films érotiques. Par contre, pour la literotica, c'est-à-dire la littérature écrite érotique, 95% des auteurs sont femmes et 95% des lectrices sont des femmes également. Mais on voit la différence. On voit la différence dans la manière que c'est produit. Mais pourtant, tu sais, je trouve que il y a quelque chose que moi j'ai réalisé en lisant des livres romantiques. Par exemple, le classique, c'est 50 Shades of Grey. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi, là. C'est tout le temps. On voit un peu les mêmes mots qu'il y a chez les pour ce qui est fait dans la perspective d'un homme, mais c'est simplement que là les femmes le font, donc là c'est la même chose qui est projetée sur l'homme, c'est-à-dire par exemple c'est un peu le syndrome de Twilight, ce que j'appelle. L'homme, c'est toujours il est grand, il est beau, c'est un vampire ou un loup-garou, c'est un PDG d'une grosse compagnie, il est extrêmement riche et il est très dominant sur la femme, et la femme c'est une secrétaire qui travaille pour lui. Vous comprenez un peu, il y a des auditeurs qui vont m'écouter et dire « Ah ouais, je pense à comme 20 livres dans ma tête. » Donc, vous voyez sûrement ce que je veux dire, n'est-ce pas ?
Mais après, il n'y a aucune raison que les femmes échappent au patriarcat. Si la domination masculine existe et que les hommes la reproduisent, il n'y a aucune raison pour que les femmes ne soient pas influencées par la domination masculine et le patriarcat. Et je ne pense pas être la meilleure personne pour en parler parce que je suis moi-même un homme. C'est un sujet dont il faudrait parler avec... quelqu'un qui travaille dessus.
Écoutez, vous demanderez à Alexandra Popovici de venir, là je parle avec elle.
Avec elle ou avec Evelyne Jean Bouchard qui...
Evelyne Jean Bouchard aussi, ouais. Par contre, elle est ma prof dans un cours en ce moment, peut-être après que j'ai terminé le cours.
Bah, je vous le souhaite. Ouais, pour revenir au droit et cinéma, par ailleurs, les approches féministes sont une des approches critiques qui mettent plus l'accent sur les rapports de domination genrés. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit totalement dans l'idée de ciné-critique. On peut imaginer... récemment, il y a eu Anatomie d'une chute, le film Anatomie d'une chute, qui est très intéressant à lire et à regarder. Enfin, à lire, non, parce que c'est pas un livre, mais on se comprend. À regarder avec un œil critique, en particulier d'un point de vue féministe. Et il y a une professeure qui le fait, qui va présenter, probablement dans les mois qui vont arriver.
Vous venez de Belgique, mais maintenant vous êtes au Canada, évidemment. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une différence dans les approches qui sont employées en Belgique et, disons, la mentalité ou les perspectives qu'il y a là-bas, dont peut-être une perspective plus large européenne, sinon belge exclusivement, qu'ici au Canada ou en Amérique du Nord, parce que c'est sûr qu'on a beaucoup d'osmose culturelle américaine qui est présente au Canada.
Y a beaucoup d'études sur les différences entre les approches européennes, qu'on pourrait dire continentales, et les approches américaines, nord-américaines. Le Canada, c'est un peu particulier, parce que c'est entre les deux, comme tu l'as dit, en particulier le Québec. C'est clair qu'en Amérique du Nord, il y a une culture du légal réalisme, ou du réalisme de façon plus importante. Donc c'est un courant pour ceux qui ont... pas fait LV2 droit, qui considèrent que en fait, le droit, globalement, ça n'existe pas tant que ça, qu'il faut regarder plutôt d'un angle utilitariste en fonction des fins que le droit nous permet d'atteindre. C'est un peu cette idée de... votre jugement dépend un peu de ce que le juge a mangé ce matin. En Europe, particulièrement dans l'Europe francophone, on est beaucoup plus formaliste. La Belgique, encore une fois, c'est un peu particulier parce que c'est pas un État très centralisé comme l'est la France. Mais en réalité, je pense qu'il y a des inspirations. En fait, aujourd'hui, avec la mondialisation et avec le monde académique, tout le monde s'inspire de tout le monde. Et du coup, il y a une forme pas d'uniformité, mais d'hégémonisation.
Je ne suis pas trop sûr du terme, mais on peut dire uniformisation, je crois.
Homogénéisation.
Homogénéisation, oui, c'est ça.
D'homogénéisation qui fait que... aujourd'hui, on retrouve des éléments un peu partout, qui s'inspirent les uns des autres. Au Québec, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des approches critiques hyper intéressantes, qui sont plus inspirées en fait de l'Amérique du Nord, qui a une tradition qui est très différente. En Europe, on a une tradition critique qui est plus inspirée du marxisme, alors qu'en Amérique du Nord, le marxisme va des rétro-satanas, donc on s'inspire d'autres théories, notamment celle du langage. Du coup, c'est vraiment très intéressant parce que c'est différent, il y a des choses à apprendre des deux. D'une manière plus générale, moi j'aime bien le Québec et... Enfin, j'aime bien l'approche québécoise du droit, en tout cas en droit international. En tout cas celle du LRCD, à minima.
Donc, on va partir pour une dernière pause et après ça, on va avoir une discussion libre. Vous pourrez me poser les questions que vous vouliez, Sam Rojdi. Je sais que vous étiez excité dès le début de l'émission, mais vous pourrez le faire maintenant. Mais posez les questions que vous voulez tout de suite après la pause. Donc, dernier quart d'heure, on va aller jusqu'à 19h30 ce soir. Sam Rojdi, vous voulez me poser des questions avant l'émission, pendant l'émission. Je vous ai posé les questions que j'avais vous poser concernant cette activité cinécritique. Pour me poser, allez-y, s'il vous plaît, parlez proche du micro.
Ouais, d'abord, je voulais juste rappeler que l'événement cinécritique, c'est le 9 février, lundi 9 février, de 11h30 à 13h. À 13h30, il me semble, que vous pouvez vous inscrire sur Teams ou au local, qui est le local de la bibliothèque de droit, en dessous. Ça, maintenant que la pub est faite, je peux commencer à te poser les questions que je rêvais de te poser depuis le début de l'entrevue.
Vas-y.
Donc, je t'ai demandé comment est-ce que tu t'es intéressé au droit et à la culture. Et je t'ai demandé en off, pourquoi est-ce que tu t'y intéressais ? Et moi, je me dis que maintenant, on pourrait en discuter.
Oui, non, moi, ça ne me dérange pas. Moi je le cache pas du tout. Hein. Mais c'est ça, moi le droit et la culture, disons le lien entre les deux, c'est quelque chose qui m'est venu par mon intérêt pour la politique. Donc moi ça fait plusieurs années que je fais de la politique là. Bon, je vais pas le cacher là, j'ai plutôt à droite c'est par cet engagement là où je me suis intéressé au phénomène qui conjugue le droit et la politique, notamment par toutes les questions de liberté d'expression qu'il y a eu autour de 2015-2016, la censure sur les campus. À l'époque, c'était Ben Shapiro, là, un peu l'instigateur de tout ça. Et donc voilà, les questions du wokisme, la censure sur les campus, et comment est-ce que la culture impacte le droit. Et c'est aussi quelque chose qui m'est venu par mon lassement pour la politique avec un grand P, parce que une des raisons pourquoi j'ai décidé de, et je l'avais dit en off, faire cette émission-là et parler de culture, c'est parce que je voulais pas faire une émission sur la politique, il y en a déjà trop et il y a rien de nouveau qui est dit sur la politique. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qu'il y a à dire sur la culture et qui ne sont pas dites parce que tout le monde est occupé à parler de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans la politique. Et c'est un peu comme ça que mon intérêt, donc voilà, c'est par la politique que j'ai eu mon intérêt pour le droit et la culture en tant que telle. Et pour le côté de le contenu de la culture, c'est par les animés, par le manga japonais et notamment par la variété de contenu et de médiums et de genres qui sont explorés dans le manga japonais et parfois des... certains préconçus qu'on peut avoir ici en Occident qui sont brisés par les fandoms et ce qui est abordé dans le multimédia japonais. Par exemple, récemment, j'avais fait une entrevue avec le président de Gunpla Montréal qui est fan de Gundam, là, qui construit des Gundam qui sont modèles robots, excusez-moi. Mais vous savez, les fans originaux de Gundam, c'était des filles qui allaient faire des fanfictions sur des relations lesbiennes dans Gundam, ou les relations LGBT, on pourrait dire, plus largement. Donc voilà, c'est un peu ces phénomènes-là qui m'ont intéressé plus largement au droit et la culture. Et le droit au cinéma, c'est quelque chose qui est venu naturellement, moi je considère en tout cas, par la suite.
C'est marrant parce que... en fait, est-ce que tu penses pas qu'en faisant ça, en distinguant la culture et la politique, t'omets quelque chose de très important, c'est que la culture, elle est politique. C'est pas les mêmes œuvres qui sortent au même moment. Aux États-Unis, il y a eu il y a eu quelque chose de très important il y a très longtemps, qui est le décret James Crow, qui a vraiment changé ce que le cinéma américain faisait. Il y a des films qui sont très importants, qui s'inscrivent dans une tradition très importante, mais qui sont aussi fondateurs pour certains courants. Je pense au film américain dont j'ai oublié le nom maintenant, mais qui a une histoire de l'Amérique qui est vraiment un film très important pour le Ku Klux Klan et même pour les suprémacistes blancs. Il y a en fait les films et la culture de manière générale s'inscrivent dans des traditions culturelles. Elles reflètent des opinions politiques. Et en fait, c'est dommage de traiter la culture comme de la culture.
Non, mais on est en accord sur ce sujet-là. Désolé de vous couper, mais je crois que j'ai peut-être pas terminé ma réponse complètement. Mais moi, je ne sépare pas la. Ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que la culture et la politique sont comme deux domaines indépendants et le droit est. Non. Je dis certainement, là, pour moi je considère, on peut être en accord ou non, que la politique est un peu en aval de la culture. Donc, il y a des produits culturels qui émergent de bas en haut et là, il y a la politique qui est plutôt vers le haut qui est influencée par ce phénomène-là. On peut dire que c'est en amont, en aval, mais je ne dis pas que ce sont deux phénomènes indépendants l'un de l'autre. Je vois certainement que les deux sont interreliés. Je considérerais que ce serait complètement absurde de considérer qu'ils ne le sont pas. C'est pour ça que, bon, je ne veux pas me mettre les pieds dans les plats, mais le phénomène Gamergate qu'il y a eu il y a une décennie, une idée qui a émergé de ça, il y a trop de politique dans les jeux vidéo, mais pour moi, tu sais, les multimédias, il y a toujours de la politique là-dedans, mais je crois que ce dont on parlait, ce n'est pas de la politique, mais plutôt d'un phénomène culturel, qu'il y a un phénomène culturel en particulier qu'on critiquait, qui portait sur certaines tendances. Honnêtement, je pourrais faire un épisode entier sur ça, je ne veux pas trop me pencher là-dessus, mais honnêtement, pour moi, je considère que la culture et la politique, le multimédia, l'art, tout ça sont entièrement interreliés, mais je considère quand même que ça demeure des domaines qui sont séparés, qui ont leur propre code, qui ont leurs propres règles, et que je ne peux pas, par exemple, simplement linguistiquement, ça ne se ferait pas de dire que politique égale culture égale droit égale art égale etc. Je ne ferai pas une synonymisation de tous ces concepts.
Ouais, effectivement, je pense pas qu'il faille le faire ni que ce soit le cas. Mais par contre, je pense que c'est intéressant, quand on parle d'art, de rappeler le contexte dans lequel cet art s'inscrit, le message du réalisateur, de la réalisatrice, de l'auteur en fait, ou de l'autrice. Et puis, la façon dont cette œuvre elle a été, et c'est quelque chose dont tu as parlé, elle peut être réappropriée par le public. Une œuvre, ce n'est pas quelque chose d'intangible, d'intemporel. En fait, il y a un message. Et ce message, il peut être réapproprié par le public de mille et une façons.
Et pour moi, l'œuvre par excellence qui est toujours réappropriée, c'est 1984.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas tant que ça réappropriée, parce que c'est quand même le message de l'auteur. Elle est remobilisée, ça oui. Mais réapproprier, le sens est resté globalement le même depuis que George Orwell l'a écrit, l'a publié. Mais il y a plusieurs œuvres. À un moment, tu as parlé de One Piece.
Oui.
One Piece est mobilisé dans tous les sens par des personnes qui défendent des choses différentes. Pour moi, le meilleur exemple, c'est peut-être Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans.
Ah non, absolument. oui.
Dont je pourrais parler des heures parce que j'en suis assez critique.
Et écoutez, Sam, je vous réinviterai un jour, on parlera que de Shingeki no Kyojin parce que c'est un de mes mangas préférés.
Alors que moi, c'est un de ceux que je détestais le plus. Non, peut-être pas, détester est un mot fort, mais...
Pour moi, il y a une différence. Moi, c'est pour ça que, pour moi, il faut différencier entre ce qui est une mauvaise œuvre dans le sens de... C'est quelque chose qui... artistiquement, qui dans sa forme, dans la manière de qu'elle est exécutée, est simplement, médiocre ou mauvaise, versus quelque chose qui véhicule un message avec lequel on n'est pas d'accord, ou un message avec lequel on peut être sévèrement en désaccord, mais qui est exécuté de manière parfaite.
Moi, si je réfléchis autrement, je suis pas capable de vous dire si une œuvre... elle est bien faite ou mal faite. Par contre, je suis capable de vous dire si j'aime une œuvre, si elle me touche, indépendamment de son message. Hein, il y a des œuvres qui ont un sens politique qui est le mien et que j'apprécie pas. Shingeki no Kyojin, par exemple, c'est difficile de savoir quel est le message derrière parce que c'est réapproprié. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est un message très libéral, d'autres que c'est un message très conservateur. Et je pense qu'il y a des arguments des deux côtés. Hein. Mais moi, ce n'est pas ça qui fait que je n'aime pas Shingeki no Kyojin. Et je ne pourrais même pas dire que l'auteur a raté son œuvre. Si elle plaît à plein de monde, c'est que...
Oui, c'est qu'il a réussi, forcément.
Manifestement, il a au moins un succès commercial. Simplement, qu'il ne me plaît pas pour plein de raisons. J'ai le même problème. Il faut savoir que les trucs mainstream, en général, je suis assez difficile avec. Je suis assez critique de One Piece, d'Hunter x Hunter aussi. Du coup,
pourtant, c'est drôle parce qu'avec Ahmed Adjanouga, qui était mon invité juste avant les vacances, on a parlé de Hunter x Hunter. Et justement, ce dont on parlait, c'était les dynamiques de pouvoir. Comment les dynamiques de pouvoir se manifestent dans Hunter x Hunter.
Oui, mais comme je dis, ce n'est pas forcément le message. Hein. Ce que je n'aime pas dans Hunter x Hunter, c'est pas tant relatif au message qu'Hunter x Hunter nous pose qu'au fait que, en fait, parfois tout simplement je m'ennuie de Hunter x Hunter. L'arc Chimera Hunt est beaucoup trop long. L'arc New York Shin, enfin le.
Oui, oui,
j'ai oublié Shin New York, quelque chose comme ça. New Shin, York. Ah. York New Shin. J'aurais tout essayé. Et c'était une partie que j'aimais vraiment beaucoup, mais je trouve qu'elle a été sous-exploitée. En fait, c'est plus des critiques de ce type-là que de dire « Oh, c'est mal fait » ou « Non, moi, juste, ça ne me plaît pas. » Ça ne préjuge pas de la qualité de l'œuvre. De la même manière, il y a des gens qui font des comparaisons. Après, il y a certaines œuvres mainstream que j'adore. Dragon Ball, Jojo Bizarre Adventure, dans une certaine mesure, c'est mainstream. Naruto, plus que Naruto Shippuden, comme beaucoup.
Non, mais pour moi, c'est quelque chose... Écoutez, moi qui suis un amateur, je dirais même, pas un expert, mais quand même un érudit de tout ce qui est hentai et machin. D'ailleurs, je fais des conférences à chaque année, je fais des conférences sur ce sujet-là à chaque année. Par rapport à ça, pas parfois dans des œuvres de ce genre... Ça, puisque les sujets sont toujours matures, c'est toujours des trucs gore, violence, sexe, etc. On peut trouver des parfois qui sont de bon, pas parfois, beaucoup qui sont de très mauvaise qualité. C'est-à-dire que ça se voit que l'auteur est un peu paresseux par rapport à la manière de dans l'exécution. Mais il y en a d'autres où même si c'est on peut voir une histoire similaire, on peut voir que les mêmes thèmes sont répétés, mais on voit que dans la création des personnages, dans on va dire le dialogue, dans l'art, l'effort qui a été mis en arrière de la création de cette œuvre-là, c'est quelque chose qu'on ne peut nier dans sa qualité scénaristique et artistique, même si finalement, tu sais, ça peut être quelque chose comme, tu sais, d'un truc de monstre géant qui... de viol, de pendaison, de gore, de démembrement. D'ailleurs, tu sais, un de mes visual novels préférés, c'est Maggot Bates. Il y a toutes ces choses-là dedans. Et malgré la thématique, ceux qui ont lu, je parle pas même pas des gens qui suranalysent et qui font des analyses big brain de « Ah non, en fait, c'est ça. » Non, non, c'est vraiment une histoire d'amour en arrière de ça. Et que c'est quelque chose qui est vrai, très tragique, très shakespearien, mais qui a toutes ces espèces de scènes absolument qui certains ne voudront plus pas regarder, voudront se tourner leurs yeux ailleurs. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est finalement une pièce, une œuvre d'art qui est très belle au final. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça, une œuvre, peut-être on peut terminer par ça, me dit. Une œuvre que vous adorez et qui a des éléments qui rendent l'œuvre, on va dire, pour être gentil, controversée chez d'autres lecteurs ou d'autres consommateurs, d'autres membres du public, mais que vous trouvez excellent par sa valeur artistique.
Moi, je suis un grand fan de Oshimi, qui écrit en général des seinen assez particuliers, très particuliers. Je pense que la plupart de ses œuvres sont critiquables à bien d'un égard, peuvent même être choquants. Moi, j'avoue que je suis fan de ses œuvres, que ce soit de Akunohana, Les Fleurs du Mal, Akunohana, ou dans l'intimité de Marie, qui sont vraiment des œuvres qui sont très déstabilisantes. C'est des œuvres que j'adore, alors que beaucoup de gens ont un regard assez particulier dessus. Évidemment, Vagabond. Vagabond qui fait quand même relativement l'unanimité au sein des lecteurs. Il y a vraiment beaucoup d'œuvres qui ont parfois un caractère controversé ou polémique et que moi j'adore. La même façon, Ranma 1,5, et je suis un grand fan de Rumiko Takahashi, donc Ranma 1,5, évidemment, Juliette, je t'aime, Maison Ikkoku, qui est probablement ma Madeleine de Proust, qui est l'œuvre que j'ai dû le plus lire dans ma vie, qui pourtant, on a parlé de féminisme, mais pas franchement une œuvre très féministe, puisque Rumiko Takahashi l'a écrit dans les années 80. C'est émancipateur, parce que c'est quand même une femme qui l'écrit dans ces années-là, mais elle est plutôt... Enfin, disons qu'il y a des choses à redire dans les deux œuvres, d'ailleurs, mais moi, je vous avoue que je suis fan. Et quand j'aime avec passion.
Et ça se voit, certainement. Sam Rushdie, une dernière promo pour l'événement, et après, on pourra appeler ça une soirée.
Comme je vous l'ai dit, je serais vraiment très heureux si cette émission permettait juste de recruter, d'intéresser une ou deux personnes à l'événement et même de manière générale au fait d'associer le droit au cinéma ou de porter un regard réflexif sur ce qu'ils regardent, sur ce qu'ils ingèrent, entre guillemets. Et du coup, comme je vous l'ai dit, lundi 9 février, venez en nombre.
Ce sera au deuxième étage de la bibliothèque, c'est ça, 19-248 à la faculté de droit à Sherbrooke. C'est exact ?
C'est une mémoire de juriste qui n'est pas la mienne. C'est une bien meilleure mémoire que la mienne. Ça se voit que tu fais du droit depuis longtemps.
Ah non, j'ai un cours ce matin là-bas. Là. Si j'oublie cette salle, je suis foutu. Merci beaucoup, Sam Rushdie. Et écoutez, la prochaine fois, on parlera de Shingeki no Kyojin et d'animé. Là. Honnêtement, je suis content d'avoir trouvé un otaku qui est dans son voyage otaku avec moi. Merci beaucoup, Sam Rushdie. Et à la prochaine.
Avec plaisir. Au plaisir de vous y voir nombreux.